C'est le journal de Magali Homo. Bonjour Magali.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, cette courte nuit à Kiev, la capitale ukrainienne résiste. On y revient après les autres titres, Magali.
Kalachnikov en bandoulière, certains sont prêts à tout pour défendre leur pays. Des milliers d'armes légères ont été distribuées aux civils. Pendant ce temps-là, à New York, sans surprise, hier lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a empêché l'adoption d'une résolution qui demandait le retrait immédiat de ses troupes en Ukraine. La France, elle, renforce son contingent militaire dans le cadre de l'OTAN. Une guerre en Ukraine dans toutes les têtes. Hier soir, à la cérémonie des Césars, Valérie Le Mercier a reçu celui de la meilleure actrice pour Aline, vous l'entendrez. 2 ans après le duel France-Écosse, de retour pour le tournoi des Six Nations, dans ce même stade de Murrayfield, où les Bleus avaient perdu des fêtes cuisantes dont les joueurs se souviennent. Aujourd'hui, ils veulent prendre leur revanche.
Et puis un mot sur nos invités ce matin à partir de 8h20. Question sur l'impact des sanctions économiques contre la Russie. On va en parler avec l'économiste et historien Philippe Chalmin et Édouard Simon, également directeur de recherche à l'IRIS. C'est un spécialiste des politiques industrielles et d'armement.
France Inter. La bataille de Kiev a commencé. Les combats font rage sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de la capitale, la ville cernée par les forces russes. Quelques heures avant, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelait à la mobilisation générale. Les civils, simples volontaires ou vétérans du conflit dans le Donbass, tous sont appelés à se battre. Des armes ont été distribuées, notamment aux plus jeunes. Gilles Gallinaro et Omar Waman sont allés à leur rencontre. Reportage.
Kalachnikov ?
Yes.
Alex déambule une Kalachnikov en bandoulière au milieu des rayons de ce supermarché. Il se dit prêt à affronter les soldats russes dans les rues de Kiev.
Si on ne prend pas les armes, il y aura massacre, une montagne de cadavres.
Plus de 10 000 fusils automatiques ont été distribués aux civils en quelques heures. Sergueï devra attendre un peu car les centres de distribution ont été pris d'assaut.
Toutes les armes ont été distribuées. On nous a conseillé de rentrer chez nous et de revenir demain matin à
9h. C'est pour défendre son quartier dans le nord de Kiev que Stanislav, 35 ans, a décidé de s'engager. La menace se rapproche. Les soldats russes sont à une vingtaine de kilomètres de chez lui.
Il y a beaucoup de gens qui sont restés vivre ici, donc il faut les protéger. Il ne s'agit pas seulement de protéger des immeubles ou des habitations, mais surtout des personnes.
Depuis le début de l'offensive, la résistance s'organise et s'appuie sur une jeunesse déterminée à défendre la capitale à n'importe quel prix. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et ceux qui ne restent pas pour se battre se terrent dans les sous-sols, les métros. D'autres prennent le chemin de l'exil. 100 000 personnes ont déjà été déplacées. 50 000 ont quitté l'Ukraine, selon l'ONU. Et alors que les combats se poursuivent, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appelle à donner une nouvelle chance à la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni hier soir à New York pour voter une résolution visant à dénoncer l'initiative de Moscou, un texte qui dénonce l'intervention militaire du Kremlin et réclame le retrait immédiat des troupes russes soutenues par près de 70 pays, mais auquel, sans surprise, la Russie, Loïc Loury, a opposé son veto.
11 votes pour, 3 abstentions, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis et surtout l'inévitable veto de la Russie qui enterre le texte. Pas de surprise, réagit la représentante américaine.
Russie, vous pouvez opposer votre veto à cette résolution, mais vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous ne pouvez pas mettre votre veto à la vérité ou au peuple ukrainien.
Autour de la table et sans pour autant soutenir Moscou, les abstentionnistes se justifient, tant bien que mal, ici le diplomate indien. Le dialogue est la seule réponse pour régler les différends. Il est regrettable que nous ayons abandonné la voie de la diplomatie. Nous devons relancer les discussions. Et pour ces raisons, l'Inde a choisi de s'abstenir. Quant à son collègue russe qui préside la session, il dénonce un projet de résolution anti-russe et anti-ukrainien destiné à sauver le régime qui a conduit le pays à la tragédie. Le texte adouci pour éviter que les abstentionnistes ne votent non ne comportait plus le terme condamné remplacé par déploré et ne faisait plus référence à un possible recours à la force. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le veto russe est une tache de sang sur sa plaque au Conseil de sécurité, a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, paria des Occidentaux. Ils ont gelé les avoirs du président russe et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Washington veut également interdire les deux hommes d'entrer en territoire américain. Ils devraient donc rejoindre une liste sur laquelle figurent notamment les dictateurs Kim Jong-un ou Bachar al-Assad. Le secteur financier est aussi sous le coup de sanctions. Ce n'est pas suffisant pour Volodymyr Zelensky.
Et de son côté, l'OTAN persiste et signe.
L'organisation n'enverra pas de troupes en Ukraine, mais elle se tient prête. La France va déployer 500 militaires en Roumanie, annonce hier soir du chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard, dans une interview à Radio France Internationale et France 24.
L'OTAN a décidé de renforcer sa présence, d'envoyer un signe très clair de solidarité stratégique, de positionner des forces en Roumanie. Et la France, qui est actuellement contributeur majeur de la force de réaction rapide de l'OTAN, effectivement s'est portée volontaire, a dit « je suis capable de faire, je suis prêt à faire cadre. De nation cadre, d'assurer le rôle de nation cadre, c'est-à-dire de pays leader pour déployer un bataillon en Roumanie prochainement, où on va déployer environ 500 hommes avec des véhicules blindés, des engins de combat, pour apporter un soutien à la Roumanie, mais aussi apporter le message d'une solidarité stratégique de l'ensemble des membres de l'OTAN.
Par ailleurs, la présence militaire française au sein de l'OTAN en Estonie, pays frontalier de la Russie, va être prolongée au-delà de la relève prévue en mars. Le salon de l'agriculture à l'ombre de cette guerre en Ukraine, la plus grande ferme de France, ouvre ses portes dans une heure à Paris. Rendez-vous incontournable pour les candidats à la présidentielle, sauf que dans le contexte actuel, certains ont dû revoir leur plan. Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas officiellement lancé, doit inaugurer le salon, mais ne déambulera pas dans les allées comme le veut la coutume. C'est Jean Castex qui prendra le relais.
Et le César du meilleur film est attribué à...
Illusion perdue de Xavier Giannoli, adaptation du classique de Balzac. Nommé 15 fois, le film repart avec 7 statuettes. Léos Carax a été désigné meilleur réalisateur pour Annette, Benoît Magimel meilleur acteur pour De son vivant, et c'est Valérie Lemercier qui reçoit le César de la meilleure actrice pour Aline, le biopic de Céline Dion qu'elle a également réalisé. Une belle récompense pour ce film dont la sortie a été maintes fois reportée à cause du Covid.
Je ne suis pas la seule à avoir décalé mon film, à avoir dû changer 10 fois de faire des stop and go comme ça. Mais voilà, ça a été comme ça pour tout le monde. Je n'ai pas du tout à me plaindre. Le film a bien marché. C'est la première fois que ma mère m'aime dans un film. Elle ne m'aime qu'au théâtre. Elle l'adore quand je fais des spectacles toute seule, mais au cinéma, elle ne m'a jamais trouvé bien. Et c'est la première fois que j'ai tant de messages de mes collègues, plein de metteurs en scène qui m'ont envoyé des mails, des messages. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais un peu submergée par l'émotion. Et j'aime pas ça, parce que je préférais rigoler.
Valérie Lemercier au micro de Matteo Maestracci de France Info. L'heure de la revanche a sonné pour les Bleus. Écosse-France en rugby, 3e journée du tournoi des 6 nations, c'est aujourd'hui. Les tricolores vont vouloir poursuivre leur parcours parfait dans la compétition. Seule équipe encore invaincue, la France est la seule à pouvoir encore prétendre au Grand Chelem cette année. Mais avant de vraiment pouvoir en parler, il faut battre les Écossais. C'est là que ça se complique, car les hommes de Fabien Galthié n'y sont pas encore parvenus dans le tournoi. 2 matchs, 2 défaites, dont une cuisante, Fanny Le Chevestrier. C'était il y a 2 ans à Murrayfield.
Cuisante, car dans une ambiance de feu, en présence de 10 000 supporters tricolores ce 8 mars 2020, on annonçait déjà un grand chelem pour les Bleus avant que l'Écosse n'éteigne le rêve. 28 à 17, une défaite que n'est pas prêt d'oublier le centre Gaël Ficou.
On a été pris avant même de rentrer dans le stade. Je me souviens, ils nous avaient ralenti avec leur cortège, ils avaient chanté des chansons, c'était assez impressionnant. Ils avaient fait exprès de nous faire dégoupiller.
Mais depuis, les petits Bleus ont grandi et acquis la fameuse expérience qui doit les empêcher de rechuter, explique l'entraîneur adjoint William Servat.
Disons qu'il y a 2 ans, c'était le début du mandat. Toutes les choses étaient nouvelles avec une équipe largement rajeunie. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui se frottent de plus en plus au haut niveau. Ça nous permet d'appréhender de manière un petit peu plus facile ces événements-là.
Voilà pourquoi aussi, au-delà du tournoi, ce match est capital. Après 2 années enthousiasmantes, mais sans trophée, il doit permettre aux hommes de Fabien Galthié d'enfin valider par du concret. 2 années de travail, souligne le deuxième ligne, Paul Villemcé.
On a battu des grandes équipes déjà, mais on sait que comme on a déjà perdu 2 fois contre eux, Ça sera un bon match pour montrer notre progression pendant les derniers deux ans.
En tout cas, les supporters tricolores y croient autant qu'il y a deux ans. Ils sont 8000 à avoir dès hier investi les rues d'Édimbourg.
Fanny Lechevestrier, Écosse-France, à suivre à partir de 15h15.
C'est noté, Magali Homo. Le temps de ce samedi.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Un temps et des conditions clémentes ce week-end, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait, Eric. Une journée donc agréable avec le retour de haute pression sur le pays. L'ambiance sera quasiment au beau fixe, hein, au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest, avec un vent modéré à 70 km à l'heure, tout de même à signaler sur le sud de la Bretagne, le nord de la Corse et dans le domaine de l'OTAN. Dans des températures de l'ordre de 10 degrés en moyenne cet après-midi dans la moitié nord du pays, 12 à 14 du Poitou-Charentes-Rhône-Alpes et 14 à 16 de la Garonne à la Méditerranée. En revanche, ce matin, les gelées sont quand même assez fréquentes dans l'intérieur, entre 0 et moins 3 en général, jusqu'à moins 5 sur l'Allier, avec dans le détail moins 5 à Vichy, Nevers et Guéret, moins 3 degrés à Beauvais, Muret et Auche, moins 1 à Laval, Châteaudun, Melun, Lille, Trappes et Orly.
Jean-Michel Golinski, Météo France.